Ce 97e épisode s'intitule In Vino Femina. Bienvenue dans la Terre à Boire. Et on se retrouve en studio, à côté de moi, Laurent Delceau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Patrice Defay.
Bonjour.
Et on accueille Valérie Auvertus. Bonjour, Valérie.
Bonjour à tous.
Alors, c'est ta première avec nous au micro, mais en fait, on peut dire que tu as déjà collaboré quand même à la Terre à Boire parce que tu nous as pas mal aidé l'année dernière, la saison dernière, sur la sélection des vins des Côtes-du-Rhône pour ces deux émissions mythiques enregistrées dans le sud de la France, l'une à Baume de Venise et l'autre dans le Luberon.
Absolument.
Donc voilà, tu n'étais pas présente au micro, mais tu as fait avec
nous. J'étais là.
tu étais là en pensée. les dégustations, la sélection des vins. Et toi, donc tu es caviste.
Absolument.
Et tu animes aussi des ateliers de dégustation via. Voilà. Pour une société qui s'appelle
Œnotesting. Absolument.
Voilà. Et on est d'autant plus content de se retrouver en studio qu'on a des invités. Voilà. Bonjour Alessandra Fotorino.
Bonsoir à tous.
Et bonjour Céline Pernaud-Burlet.
Bonjour à tous.
Alors, on est ravis de vous recevoir. Vous avez commis toutes les deux une bande dessinée qui s'appelle In Vino Femina. J'ai pas eu de difficulté à trouver un titre pour cette émission. C'est un titre qui est assez canon, qui claque et qui dit tout de suite ce qu'il veut dire. On va rentrer un peu dans le livre et tout ce qu'il raconte. Tout le monde l'a lu ici. In Vino Femina, c'est ton histoire, Alessandra.
Entre autres.
Mise en dessin et en scénette. On va y revenir par toi, Céline.
Oui.
C'est ça. Comment s'est née cette histoire?
La rencontre.
Ouais, comment vous en êtes venu? Bah, peut-être à vous rencontrer, effectivement. Et puis, il me semble, c'est un peu raconté dans le livre aussi, parce que c'est, on va le dire, c'est raconté à la première personne.
Oui.
Voilà, je suis Alessandra, voilà, et tu racontes ton histoire. Du coup, Céline a trouvé un moyen de te croquer qu'on va retrouver dans tout le bouquin. Donc, il y a des petites astuces comme ça qu'on va retrouver tout au long du livre. Mais, il me semble que vous racontez que vous rencontrez et assez vite, vous avez envie de faire un livre.
Oui, ça va très vite. Alors, je vais raconter la première partie et Céline, tu raconteras la suite. Ça faisait longtemps que je portais l'idée d'écrire quelque chose, notamment sur ce que j'avais vécu, ce que je vivais en tant que femme dans le milieu du vin, et dont des choses qui, avec un peu de maturité, d'âge et d'expérience, m'ont laissé penser qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales, pas tout à fait logiques. Et donc, c'est venu un peu comme un exutoire, ce besoin d'écrire. Sauf que quand je pensais à mon histoire, j'essayais de la penser en termes humoristiques pour essayer d'y amener un peu de légèreté dans la lourdeur que ça avait pu m'apporter. Et j'y pensais en dessin, surtout. J'y ai beaucoup pensé en dessin. J'ai eu la chance de croiser les dessins de Céline sous les yeux. J'ai donc contacté Céline très rapidement, puisque je n'ai regardé que ses dessins. Céline m'a répondu aussi rapidement qu'elle m'attendait un matin pour un thé chez elle. Et je te laisse la suite.
J'adore comme tu racontes.
Ça a failli être un livre sur le thé, donc.
Même pas. Non, tout de suite.
Toi, Céline, t'étais illustratrice, dessinatrice de BD.
Bah moi, j'avais auto-publié avec Mathilde Christiani un conte à destination des adolescents, des jeunes, pour les sensibiliser aux violences faites aux femmes. C'est quelque chose qu'on avait auto-publié en 2020 et qui s'appelle « Elle ». Et du coup, Alessandra avait eu ce petit livre dans les mains, et je crois que t'es tombée amoureuse de mes dessins.
Ah, mais complètement.
Peux dire ça.
Complètement.
Et du coup, on s'est rencontrés, on s'est plu, et en fait, Alès me raconte ces histoires de ce qui sont devenues dans le livre, en fait, les lampées sexistes.
Les scénettes.
Mmh. Et c'était des scénettes qu'on pouvait faire tenir en une, de temps en temps, sur deux pages. Et moi, en fait, je suis une grosse amatrice de BD et de romans graphiques. Donc, j'ai dit, banco, je veux bien y aller, mais je veux que ce soit un roman graphique, parce que quand tu me racontes ton histoire, c'est un truc, il faut qu'on la raconte. Et du coup, on a commencé par faire son portrait.
Tu veux dire, ça peut pas être juste un cocktail de gags ou de scénettes. Ouais. Il faut que ce soit un peu plus, qu'il y ait une prise de parole à la première personne.
Plus de fond et plus d'histoire, type roman graphique avec des vraies cases, etc. Et ça tombe bien parce qu'Alès aime bien les BD aussi. Donc on s'est
retrouvés. On est toutes les deux fans de BD depuis notre enfance.
Fans de Bretéchier, tout ça. Quoi.
Exactement.
On a un peu la même éducation visuelle et BD, je pense.
Complètement.
Du coup, on s'est retrouvés là-dessus. On a eu envie de raconter son histoire et puis très vite, en échangeant, en fait, il y a des personnalités qui sont apparues. Et qu'on a eu envie de contacter, dont on a eu envie d'en faire le portrait. Et puis moi, elle me faisait goûter des vins, donc je me suis dit, ben, en fait, mon métier premier, c'est de faire de la facilitation graphique, du sketch note. C'est la capacité à expliquer les choses avec du visuel. Et quand elle me parlait des vins, moi, je voyais en fait tout ce qu'on a mis dans le livre au niveau des bouteilles. C'est de se dire, une bouteille, elle a un visuel, elle a une étiquette. Le vin sent quelque chose, le vin a une couleur, une robe, enfin j'ai pas les termes techniques, ça c'est la partie technique et expertise, c'est Alès qui l'a. Et quand elle en parlait, elle avait vraiment une poésie, enfin tu faisais des phrases poétiques, moi ça m'émouvait.
Après deux verres, ça
c'était hyper émouvant et j'avais envie de mettre ça en image. Et du coup c'est toutes ces planches qu'on a mis à la fin du livre qui sont un peu là. Un extrait des quelques bouteilles que tu aimes, mais je pense que c'est pas tout à fait complet. Mmh. Pour en rajouter une centaine.
Avec une vraie envie de bien dessiner les bouteilles, parce que on a l'impression que la dessinatrice elle a pris du plaisir à bien faire les étiquettes, notamment les moutons Rothschild là avec.
C'était dans la partie historique quoi, les moutons.
Est-ce que t'as rajouté des moutons?
Ouais, j'ai dessiné des moutons.
T'as dessiné des moutons.
Il y a un vrai plaisir de dessiner les bouteilles, ça sent.
Ouais. Et puis elle les a goûtées, ça l'a aidé.
Alors si je peux lancer un petit appel à des vignerons nature ou bio, s'ils ont des étiquettes à dessiner, je suis partante. Voilà.
J'en profite. Oui, t'as raison. Hein. T'en as jamais fait des étiquettes de vin? Pas encore.
Non, mais d'accord. Je pense que c'est un rêve qui va devenir réalité, là. C'est obligé. Bah, c'est la suite logique.
Au moins un auditeur, une auditrice qui va t'appeler pour sa prochaine étiquette. C'est bien parce que t'as résumé effectivement les trois étages de la fusée un petit peu. On a ces scénettes, on a des portraits et on a à la fin notamment une petite collection de cuvées hyper bien dessinées avec l'accord, avec les évidemment le cépage, de quoi c'est fait, etc. Et puis est-ce que ça peut évoquer comme arôme? Qu'est-ce que vous en avez pensé, chers camarades?
On a une quatrième partie au moins.
Laurent.
La partie de l'histoire des femmes dans le vin aussi.
Oui, tout à fait.
Quand même aussi un passage,
qui est un peu, un qui est plus le. Tu as raison, qui est le fil rouge.
En introduction, le moteur. Suite à ton histoire à toi, tu te dis finalement, le rôle des femmes dans le vin, dans l'histoire, par où ça passe. Et c'est assez intéressant aussi.
Et c'est parsemé de personnalités forcément. Tu reviens sur les premières veuves de Champagne qui ont fait du vin parce que justement il fallait attendre d'être veuve entre guillemets
pouvoir rentrer même dans la commercialisation, l'entrepreneuriat. Donc ça commençait avec les veuves, en tout cas c'était les plus connues. Et puis après petit à petit, on se rend compte qu'il y a plein de grands noms et beaucoup de femmes qui ont œuvré, que ce soit à la vigne et même à la technique.
Alors rentrons peut-être maintenant dans la matrice du bouquin, c'est quel est ton parcours. On va peut-être faire un tour quand même au premier chef. T'as un sentiment général à la lecture de ce bouquin, Valérie? T'as retrouvé des scènes que tu connaissais, tristement connues?
Oui, alors certaines, oui, bien sûr. Quand j'étais peut-être un peu plus jeune. En fait, je me rends compte que du coup, je vis moins ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a eu des cas de figure que j'ai retrouvés, oui, bien sûr. Et puis après, aujourd'hui, en tant que caviste, c'est quand même assez isolé, je trouve. Quand quelqu'un rentre dans la cave, il s'adresse bien à moi quand il veut du vin.
Prenons peut-être des exemples, parce qu'il y a un certain nombre de scènes dans lesquelles, toi, tu es caviste, donc tu exerces ton métier de caviste.
En effet, comme dit Valérie, ça m'est beaucoup arrivé plus jeune. C'était beaucoup plus.
Alors, est-ce que ça veut dire, et ça peut vouloir dire deux choses, c'est soit on fait ça plus facilement avec une caviste, parce qu'elle a moins de 25 ans, et on se permet des choses avec une jeune qu'on ne se permet pas avec une femme un peu plus âgée, ou les temps ont changé et on ne se permet plus ça.
C'est ça, les deux, un peu des deux. Je suis sûre, pour en faire mon quotidien, les temps ont évidemment changé, même s'il y a encore beaucoup d'évolutions à venir, je l'espère. Mais les temps ont changé. Il y a des femmes absolument dans tous les métiers de bouche, du vin, qui sont beaucoup plus visibles qu'à l'époque. Moi, quand je suis arrivée il y a 15 ans, j'étais lors d'un de mes métiers, on était 3 filles pour une quinzaine de garçons en brigade. Donc, c'était ridiculement petit. Aujourd'hui, ça évolue naturellement.
Est-ce que ça évolue? Parce que là, tu parles de brigade, on est dans le milieu plus de la cuisine. Est-ce que
ouais,
ça évolue?
Moi, je suis passée par un peu partout, notamment dans la cuisine aussi.
Est-ce que ça évolue plus vite dans le monde du vin que dans le monde de la cuisine?
Je pense que ça évolue. Je pense, hein. Donc, ça ne.
Il n'y a pas de statistiques
à sortir. Non, il n'y a pas de statistiques. Je ne veux pas sortir de chiffres, mais d'après moi, en tout cas, mon expérience, en tout cas, j'ai l'impression que ça évolue plus dans le milieu du vin et que c'est plus visible aussi.
Je pense que c'est quand même corroboré par ce qu'on avait fait lors de l'émission sur les étudiants du vin. Enfin, quand on avait fait l'interview du prof de sommellerie, il y avait énormément de femmes qui se présentaient pour ces formations, beaucoup plus qu'auparavant. Effectivement, oui. Ça, il y a une vraie accélération dans ce sens-là.
Patrice, quelque chose à dire sur ce livre que tu as parcouru?
C'est très agréable, c'est très léger. Il est presque familier parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on retrouve à l'intérieur, qu'on a pu soit interviewer, soit croiser. Fleur Godard, par exemple, Isabelle Pongo, etc., etc.
Sandrine Goyvertz.
Donc ça fait écho à déjà pas mal de choses qu'on a évoquées. Donc voilà, c'est très agréable. Il y a un petit côté Michel Tolmer quand même dans les c'est net quelque part. Alors c'est pas le même angle, mais ça fait plaisir.
C'est un compliment.
Bah oui. Non, mais il y a un côté un petit peu c'est net autour
si
du vin.
Si tu veux faire des étiquettes de vin, c'est un bon benchmark.
Ouais.
Il en a fait quelques-unes.
Oui, il en a fait quelques-unes.
Oui.
Non, mais c'est un petit peu un mix entre l'histoire du vin, parce qu'on a une petite introduction sur l'invisibilisation, on va dire, des femmes dans le monde du vin, où elles sont déjà assez peu mises en avant de manière générale, et puis il y en a beaucoup qui ont participé, dont on a assez peu parlé. Et puis, effectivement, des scénettes. Donc, c'est un roman graphique qui est assez... très gouléant, en tout cas, très 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 facile à lire.
J'adore ce mot. Gouléant.
Ça, c'est Patrice qui sait qu'on va passer au premier vin. On a deux vins comme à notre habitude, même si on est six, on est resté sur deux vins. On fait pas, multiplie pas non plus les vins comme l'autre. On a deux vins, un rouge, un blanc. On a choisi rapidement avant le début de l'émission de commencer plutôt par le rouge. On va expliquer pourquoi. Et le rouge, c'est vous qui l'avez apporté. Et l'expert vin, c'est quand même toi, Alessandra.
Oui, j'essaye.
C'est plutôt toi qui. Non, c'est plutôt à toi que je demande de me présenter le vin plutôt qu'à Céline.
Oui. Alors, on a décidé d'un commun accord de ramener ce vin-là. Donc, on est sur la cuvée Volcan 2021 du domaine Miolan. On est dans les Côtes d'Auvergne. Alors, pour deux raisons, parce que c'est un vin justement un peu gouléant, qui a un côté assez digeste, très lié à son terroir volcanique, que j'apprécie beaucoup, et Céline aussi. Il y a une très belle étiquette de montagne que Céline a adoré dessiner. Et puis c'est aussi sentimental, puisque c'est un des premiers vins qu'on a dégusté ensemble lors d'un grand dîner qu'on avait fait avec nos conjoints, où on parlait un petit peu de ce qu'allait devenir éventuellement ce livre. Donc voilà, c'est un vin qui est plutôt sur le fruit, le côté un peu épicé, un peu poivré. Il y a de la fraîcheur, il y a une profondeur, mais ça reste assez, assez frais, assez accessible. Et voilà, c'est un vin qu'on apprécie beaucoup pour ça.
Et donc, moitié gamay, moitié pinot, c'est ça?
Exactement.
Pinot noir.
Est-ce que toutes les séances de travail se sont faites avec des verres de vin?
Non.
Non, voilà. Je m'attendais
moche
à cette réponse.
Presque toutes quand même, beaucoup.
C'était 20 outés de toute façon, c'était ça le...
Non, il y en a eu beaucoup avec et quelques-unes sans.
En fait, il n'y a pas eu tant de séances de travail ensemble.
Physique.
On a beaucoup travaillé. Enfin, oui, je te cache pas que le dessin, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai beaucoup travaillé seul et là, je pouvais pas me permettre de boire à chaque fois que je dessinais, sinon. Je pense que j'aurais fini avec l'olique.
on va parler un petit peu du contenu, parce que ça m'intéresse de vous demander comment justement vous avez concocté tout ça. Ce vin, Valérie, qu'est-ce que tu peux en dire?
Bah écoute, je le trouve effectivement plutôt frais. Au nez, en tout cas, ça dit plein de choses sympas. Sur le côté volcanique, on ressent quand même, c'est dingue, le côté un petit peu fumé comme ça qu'on a au nez. Donc je ne l'ai pas encore goûté, mais je... Top chrono, j'y vais.
On est vraiment dans le goût de ces vins hyper accessibles et oui, agréables.
Complètement.
En début de repas, à tout moment en fait.
Oui, c'est ça, c'est des vins où n'importe quel moment convient bien. Gouléant et fruité.
Ouais, ouais. Et puis, et sans, enfin, ça a du, quand même du, de la personnalité, du caractère. Ça laisse quelque chose en bouche. C'est pas juste une impression qui passe comme
tout
ça.
Tout à fait.
C'est très, très agréable. Il est dans le, non, il est pas dans le livre, tu vois. Si, il est dans le livre.
Si, si, si.
Alors, je vais me référer.
Parce qu'on a dû le goûter beaucoup.
Comment, question de côté, comment l'éditeur a pris l'idée d'un livre sur les femmes dans le vin? Tout de suite, oui, partant, on y va, c'est génial, oui. C'est dans l'air du temps,
oui,
ou
c'est ça. C'était,
t'es sûr de ton angle?
Il y a une confiance, on a eu cette chance d'être avec deux éditeurs, Stéphane Rosa et Fanny Ecochard, qui nous ont fait une confiance.
Donc chez Hachette.
Dès le départ, ouais.
Hachette Vin.
C'était super de pouvoir travailler avec eux parce que le livre, le sujet leur plaisait, l'angle, ils le trouvaient super et donc ils nous ont réellement fait confiance sur comment imaginer le livre en nous donnant aussi des conseils pertinents, notamment sur les portraits, des choses comme ça. Donc on a travaillé de manière très libre avec Céline, on s'est pas du tout senti jugé sur des aspects de comment, la manière dont on voyait des choses, des chapitres, des choses comme ça, c'était très fluide. Ça c'était très chouette.
Bah, le résultat est quand même vachement digeste, un peu comme ce vin-là. Non, mais oui, parce que les sujets sont parfois un peu lourds. Il y a un truc, par exemple, qui revient régulièrement. C'est assez habile la façon dont c'est présenté. Et on le trouve même en couverture. C'est le syndrome de l'imposteur.
Bien sûr. Ouais, ouais.
Donc la petite Alessandra,
petite Alice.
Avec sa marinière rouge, voilà, qui est souvent cette ombre qui vient derrière elle et la menacer ou l'empêcher de parler, le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est voilà quelque chose que nécessairement quand on est une femme dans le monde du vin on a vécu, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de toute façon général
Après, je pense que chaque histoire est singulière, que chaque femme porte une histoire différente. Moi, j'ai discuté, rencontré, vécu avec aussi beaucoup de femmes dans ce métier-là, et c'est quelque chose qui était partagé.
Ouais.
Maintenant, évidemment et heureusement, il y a des femmes qui n'ont pas ressenti ça et qui ont pu avancer sans ce questionnement. Moi, ça a été mon cas. Ça l'est encore, même si je me bats contre ces démons-là. Mais
et quand est-ce qu'ils se manifestent, alors? Parce qu'aujourd'hui, toi, c'est l'histoire de ton parcours dans le vin. Tu as commencé,
ouais.
Tu as arrêté l'école un peu assez rapidement, puis finalement,
très tôt.
Tu es parti vers la cuisine, et puis de la cuisine, t'es tombé sur le vin, t'as fait ensuite, t'as passé les diplômes, tout ça.
Oui.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait? Donc on peut imaginer quand on est jeune, tout ça, syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui va encore aujourd'hui déclencher ce sentiment que du coup t'essayes de réfréner?
Je pense que ça fait partie de ma construction en tant que très jeune femme, où j'avais vraiment cette sensation de n'être douée pour rien. Et ça, c'est des choses après qu'on travaille toute sa vie. Aujourd'hui, quand on me fait réellement confiance, ça me met une grosse pression. Et je me dis, est-ce que je suis digne de cette confiance? Donc voilà, c'est le temps de me poser cette question, de me remettre en question. Et après, j'y vais. De toute manière, j'y vais, je fonce systématiquement. Mais je passe toujours par ce questionnement de, est-ce qu'on peut vraiment me faire confiance? Est-ce que je la mérite?
Puis là-dessus, on s'est vraiment retrouvé, parce que le syndrome de l'imposteur, enfin, il y a pas que les femmes du vin qui l'ont.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a que les femmes?
Non.
Non, il y a plein d'hommes.
Je pense que ce syndrome, il est quand même assez partagé.
Beaucoup d'hommes aussi, bien sûr.
À partir du moment où t'es curieux, t'essayes des nouvelles choses tout le temps, et c'est un peu notre cas toutes les deux. Enfin, par exemple, là, on a fait un roman graphique. Enfin, ni l'une ni l'autre.
Toi, tu t'es senti imposteur dans le cadre du roman graphique.
Toutes les deux.
Mais tout le long. Enfin, on a passé 18
mois à faire
ce roman graphique. On s'est dit, oh là là, fou là là, pourvu que ça marche, que ça plaise. On avait une grosse pression qu'on se mettait nous-mêmes, parce que déjà, il fallait que ça nous plaise à nous. Enfin, c'était le premier truc, il fallait que ça nous plaise à nous. Après, il fallait quand même que ça plaise à notre éditeur.
C'était plus pratique.
Un petit éditeur non plus. Enfin, ça s'est quand même un peu mis la pression. Et après, que ça plaise aux personnes du milieu du vin, aux femmes, aux gens qui lisent des romans graphiques. Enfin, ça fait pas mal de gens.
Après, je pense qu'effectivement, que cette histoire de syndrome de l'imposteur, elle peut être présente chez tout le monde. Mais il y a un terreau, en fait. C'est ce qu'on découvre, alors qu'on découvre pas forcément, parce qu'effectivement ça fait 5 ans qu'on nous on fait des émissions, et puis on voit cette prise de parole, on a vu, on a été spectateur un petit peu de cette prise de parole, donc on a déjà entendu cette histoire, mais en gros il y a un terreau pour aller dans le sens de ce syndrome quelque part. C'est-à-dire, oui. Il peut être naturel et exister, mais on devrait faire tout pour dire non mais oui. C'est bon, vas-y, exprime-toi, tu peux. Et en fait, ce qu'on comprend, et notamment dans certaines dégustations où tu te mets en scène en train d'animer une dégustation avec une dame qui ose à peine parler, dire et qui te remercie à la fin que vous m'avez vous m'avez libéré, vous m'avez donné le sentiment que je pouvais exprimer quelque chose, que mon avis avait un sens. Et même, c'est une dame âgée en plus, et je m'en rappelle bien. Elle est encore dans le syndrome de l'imposteur, dans son appréhension du vin, finalement.
Complètement.
Donc, c'est un terreau général, les femmes, le vin, c'est pas tout à fait compatible. On serait programmé comme ça pour pas trop prendre la parole.
Oui, alors nous, en plus, on est programmé depuis petite. Alors, évidemment, les temps changent. Moi, je suis des années 80, ma mère des années 60, c'était encore plus compliqué. Je veux dire, le terrain d'expression des femmes était quand même un petit peu plus limité. Et sur des choses, quand je dis techniques ou vues comme très intelligentes, notamment sur la technique de dégustation, des choses comme ça, moi, je l'ai vécu, mais je l'ai observé aussi. C'est vrai que souvent, je voyais les femmes qui étaient un peu plus mises de côté sur le ressenti de la dégustation, sur... s'il y en a une qui disait quelque chose de très brillant, ça allait énerver même quelques mecs un peu connus parce que c'était à eux d'avoir le mot brillant.
Les vieux briscards, comme on dit chez moi.
Oui.
C'est comme ça que je les appelle, moi.
Oui.
Donc c'est ça.
Il y en a encore, mais en fait, je trouve qu'il y en a. Enfin, moi, je les croise peu, en fait. Je trouve que les temps changent vraiment, et tant mieux. Parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, c'était pas possible, en fait. On était dans les salons pro, il y avait. Deux nanas, c'est tout. Enfin, c'est vraiment. Aujourd'hui, c'est le champ des possibles.
Complètement.
Donc, pour moi, on est vraiment. Enfin, les choses ont vraiment bougé.
Oui, puis ce champ des possibles, en effet, permet un livre comme ça aussi.
Oui.
Parce que je pense qu'il y a 15 ans, ça aurait été très compliqué.
Moi, j'ai eu le sentiment même de. Je vais pas en faire trop, hein, mais de lire une forme de. Un peu un document sur une époque. C'est-à-dire. Les années 2020. Dans le milieu, je vais pas dire parisien parce que c'est pas que parisien, mais français en gros de l'œnologie, voilà. Et il y a des gens, il y a des prises de parole. Tu reviens sur l'affaire Fleur Godard contre Bethane de Sauve, qui est le déclencheur, si je me rappelle bien, ce qui te donne envie de passer à l'acte.
Ah
et
oui,
de,
ça
d'écrire.
Ça me met dans un tel état d'énervement. Je me dis mais c'est pas possible encore. Puis surtout quand j'ai vu comment s'était déroulé le procès, donc évidemment ça m'a donné encore plus d'envie d'écrire.
Et ça nous dresse un peu le panorama des différents thèmes qui sont dans l'air du temps, toutes ces choses que les femmes ont décidé de ne plus accepter. Et alors, il y a aussi des hommes qui sont très présents dans le bouquin, qui sont à tes côtés, soit ton associé dans le caviste, qui prend un malin plaisir à dire « voyez avec mon associé », ou « voilà, je suis pas le patron, on est patron tous les deux », enfin, j'ai pas exactement les mots.
Tout à fait, c'est ça.
Et tout ça s'imbrique. Moi, je veux revenir sur une chose, c'est sur les mots, parce que justement, le choix des mots est vachement important. Sandrine Goyvertz, elle a écrit un livre là-dessus sur le côté genré du. Alors, vous êtes pas trop dans cette entre guillemets dans la dimension théorique de tout ça, mais par contre, il y a des belles illustrations sur la façon de parler et même qui prennent un peu à revers. Il y a deux gars qui goûtent le vin et qui donc utilisent un vocabulaire de mec, on va dire. Tu vois, il y a de la profondeur. Ça, c'est un rouge complexe, un vin couillu. Et l'autre, ah ouais, il y a de la mâche, ça envoie du lourd, on est dans le dur, là, on sent la pâte du vigneron. Et puis, on a, donc, toi, probablement. Moi, je le trouve plutôt cristallin, une belle tension et un fruit charnu, sa texture est soyeuse et je dois dire terriblement digeste. Là, les deux autres se retournent. Tu me resserres un coup. Alors, je trouve ça marrant parce qu'en fait, c'est une forme de contre-pied.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait vraiment une façon masculine et féminine de parler du vin ? A priori, on va tous dire non.
Alors,
mais là, tu donnes un peu l'exemple de quand les mecs sont vraiment les gros bourrins, moi, j'essaye juste d'être un tout petit peu descriptive, ils vont me regarder avec des grands yeux, quoi.
Ah bah oui, mais moi, ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois, ces scènes-là, avec des mecs un peu bourrins, dont un vigneron. Et c'était rigolo, mais moi
c'est bien de dire que les vignerons sont pas exempts de ces
préjugés. En fait moi j'ai eu beaucoup de situations où c'était ça pouvait être avec un caviste, un vigneron aussi, et donc j'avais parfois quand je donnais mon avis avec mes mots à moi, je les avais saoulés au bout de deux secondes, donc voilà, je me suis amusée à écrire cette histoire là.
Et il y a évidemment une page sur vin féminin versus vin masculin. Nous, on a eu l'occasion d'en parler plein de fois. On adore ce concept. Tout à fait, le dégustateur. On est en présence d'un vin rouge féminin, particulièrement apprécié par la gente féminine. Voyez ce tanin, et là, les nanas qui lui rentrent dedans dans le groupe parce que il a pas vraiment compris que en fait le monde avait changé. Et dans son groupe de dégustation, il y a des hommes, des nanas, et les filles elles prennent aussi la parole. Ce vin, c'est bon, ouais, on a dit tout ce qu'on avait à en dire. Laurent, tu veux préciser quelque chose?
On
n'a
pas dit qu'il était page 141 du bouquin.
Il est page 141
du bouquin. Et qu'il est entre 12 et 14 euros.
Non, bah, je pense
c'est un bon rapport qualité-prix.
C'est intéressant de mettre en avant des vins d'Auvergne, parce que c'est quand même pas une région à laquelle on pense quand on boit du vin. Hein. C'est des appellations Côte d'Auvergne. On imagine au mieux que c'est de la piquette, quoi.
Est-ce que c'est, il fait partie de cette Loire volcanique
Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait.
Il a beaucoup fait parler d'elle, quand même.
Ce mouvement de regroupement de ces appellations qui manque de notoriété et qui pourtant produisent des choses magnifiques, parce que justement des vins faciles à boire, mais qui ont une complexité aromatique réelle, quoi.
Et puis il y a plein de vignerons qui portent. L'appellation, en effet, la Loire volcanique, notamment des mecs comme Romain Père. Enfin, ouais. Il y a un travail formidable sur ces terroirs-là et qui donne de la fraîcheur dans les vins. Je trouve que c'est intéressant quand on met en perspective le dérèglement climatique. On retrouve de la fraîcheur, de la vivacité, de l'acidité aussi dans ces vins-là.
Ça devient quand même un angle marketing si vous allez faire. Donc la Loire volcanique, hein, si vous allez faire chez Monoprix, là, vous avez un rayon vin volcanique. Ça devient un outil marketing. Ah, oui. Ah, oui. Donc c'est repris marketingement, mais ça veut pas dire qu'on les connaît suffisamment, mais on reprend les grands de la distribution reprennent quand même maintenant ces vocables-là.
Ils sont forts.
Il y a d'autres, on peut parcourir comme ça un petit peu dans les petites scénettes. Il y a quelque chose qui revient à plusieurs reprises également dans le livre, dont on parle pas forcément, c'est la difficulté des rapports entre les filles entre elles. Mm-hmm. Et parfois, des choses qui sont ancrées dans les attitudes. Et la jeune Alès qui débarque et voilà, ou une collègue voilà qui constate des agissements, des mots déplacés, des gestes déplacés. Et il y a à plusieurs reprises l'aînée, la nana qui est là depuis plus longtemps, qui leur dit non, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que ça aussi, ça a changé dans le paysage? Parce que je veux pas dire c'est le plus choquant. Évidemment, le plus choquant, c'est les attitudes ouvertement sexistes. Mais c'est frappant de se dire quelqu'un qui éventuellement l'a subi va pas faire ombrelle vis-à-vis des nouvelles arrivantes. Comment on peut expliquer ça? Enfin, c'est pas pour jeter la pierre, hein, c'est le problème, il est général, mais ça veut dire que c'est profondément ancré. Donc ça aussi, tu l'as vécu, toi.
Oui, parce que j'avais envie de parler honnêtement de ce qui m'était arrivé et ces comportements-là me sont arrivés. Et notamment, j'ai beaucoup aimé lors de l'entretien avec Fleur, qui à un moment m'explique aussi que certaines femmes lui ont pas fait de cadeau et qu'elle explique que les gardiennes les plus fortes du patriarcat, c'est souvent les femmes parce qu'elles l'ont vécu de manière assez violente. Et moi, ça a été mon cas, bien sûr. J'ai très mal vécu mon arrivée à un poste à responsabilité très rapidement.
Dans un réseau de cavistes.
Dans un réseau de cavistes où j'avais quand même beaucoup de gens à manager, notamment beaucoup d'hommes, où ça faisait à peine quelques jours que j'avais démarré et qu'une jeune femme avait très rapidement dit, ça commence toujours comme ça, que j'avais forcément couché avec le patron. Donc ça, c'est des choses, il a fallu que je m'en défende très vite, parce qu'après, c'est impossible de pouvoir travailler sereinement. Mais des choses comme ça, j'en ai vu, entendu, vécu. Et puis il y a aussi, je pense, c'est aussi lié, des comportements comme ça, à notre éducation en tant que petite fille. Alors, je suis pas psy, et je ne veux pas rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais c'est vrai que souvent, il y a une espèce de... d'amitié, d'empathie, de franche camaraderie entre les petits garçons. On va les aussi pousser dans ce sens-là. Et nous, petites filles, puisque j'essaie juste d'observer mon cas ou le cas de petites filles que je rencontre dans mon quotidien, c'est vrai que c'est important d'être belle, c'est important d'être apprêtée, c'est important d'être sage et si possible d'être plus jolie, mieux habillée que l'autre petite fille qui est à côté. Ou voilà, il y a une espèce de comparaison entre une petite fille et une autre.
Mise en concurrence,
oui,
carrément.
Même si les garçons aussi ont de la mise en concurrence avec le sport, c'est peut-être que c'est c'est fait de manière différente, mais ces petites choses-là nous poussent à parfois, moi ça m'est arrivé aussi, à regarder l'autre avec défiance ou au contraire de la regarder avec une empathie. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'on a compris ça, je pense que on peut essayer de chercher plus loin.
Sororité.
Voilà.
La jalousie naturelle de l'humanité par rapport à des situations. Je pense que c'est vrai aussi bien, encore une fois, pour les hommes que pour les femmes, de se dire, ah ben s'il l'a eu, ce truc-là que moi j'aurais bien aimé avoir, c'est sans doute parce qu'il a fait quelque chose que moi j'étais pas prêt à faire. Ah, oui. Il s'est abaissé. Elle s'est abaissée. Voilà, moi je le vois comme ça, hein. C'est clair, il y a cette jalousie naturelle. Alors après, est-ce qu'il y a une histoire de sexe sur le sujet?
Disons qu'elle est souvent, dans ce rapport de masculin-féminin, elle est souvent sexualisée.
Ouais.
C'est quand même, ça tourne parce plus autour des atours.
On est dans une société où effectivement le pouvoir est détenu par les hommes et que pour que les femmes puissent y accéder, bah apparemment... il peut pas y avoir d'alternative que d'accorder des faveurs sexuelles. Ouais, c'est effectivement le raisonnement hyper basique, hyper bas du front, quoi, logique, sans raisonnement.
Ça nous tenait à cœur de montrer qu'il y avait pas les hommes d'un côté qui étaient vilains et les femmes d'un autre qui étaient toutes super. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi montrer ces histoires-là qu'Alès a rencontrées dans le milieu du vin, mais qu'on rencontre aussi dans d'autres milieux. Ouais. Hein. Promotion canapé, c'est...
On peut le transposer partout.
Mais des tas d'autres sujets. Hein. Le silence des familles sur des sujets très, très douloureux pour pas faire de vagues, c'est aussi des choses... qui sont là non sexués et qui existent, quoi. On est vraiment dans une société où le paraître on veut pas faire de vagues, et je pense que voilà cette chape de plomb qui a pu y avoir sur les comportements, et notamment on parle des Cavaugés pas mal,
oui.
Qui a été quand même un gros scandale,
l'affaire Marc Sibar,
scandale qui apparemment durait depuis
Très longtemps.
En fait, c'est cette histoire de pas vouloir faire de vagues, pas s'attirer les foudres de la société bien pensante, etc. Quoi.
Et c'est les soubresauts de MeToo. On est encore dans les vagues successives de révélations, de prises de parole dans le milieu du vin. L'affaire Marc Sibar, c'est 2017, non, c'est plus vieux. Hein.
Non, c'est plus vieux.
C'est plus vieux, c'est ça.
Oui, c'était 2010, 2012.
Ouais, c'est ça.
Enfin, ça a commencé tôt, en tout cas.
Caviste renommé au Cavaugé qui a fini par être licencié et même condamné pour agissement envers pas mal de victimes dont certaines on regrette, on les retrouve dans le livre, de n'avoir pas parlé plus tôt.
Tout à fait.
Il y a prescription, tout ça.
Oui, donc, c'est ça, il y a toujours cette question de la prescription, mais oui, il a fait beaucoup de dégâts autour de lui, et puis surtout, ce qu'on a pu noter, c'est un gros silence lors de cette affaire-là de nombreux professionnels du vin. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément gênée, que j'ai cherché à comprendre pourquoi. Est-ce qu'on n'en parlait pas et pourquoi la presse spécialisée en parlait si peu?
On retrouve dans le portrait de Fleur Godard, elle dit à un moment que quand elle a commencé à faire ses cuvées militantes, ça lui a coupé une partie de son business, en fait. Enfin, il y a des gens qui disent, bah oui, mais là, t'es
parti un peu trop loin.
Tes bouteilles, c'est trop, ça nous met mal à l'aise, tout ça. Et si je me trompe pas, il y a même on fait ce reproche-là à des jeunes, alors que certains plus anciens disent « Ouais, non, c'est marrant ce que tu fais. »
Oui, c'est ce qu'elle m'avait expliqué lors de notre entretien, c'est que finalement, c'était parfois des jeunes un peu, plutôt Paris, un peu bobo, tout ça, qui finalement étaient un peu choqués de ces...
Cuvée qui s'appelle pute féministe.
Ouais.
Ouais. C'est dur.
Moi, je trouve ça assez rigolo. Et
c'est étonnant que ça choque, en fait.
Bah oui,
et c'est drôle que ça choque plutôt le jeune que l'ancien.
Quelqu'un. Oui, voilà, ouais. Tout à fait. Donc, après, elle est tranchée, donc elle va travailler aussi avec des gens qui lui ressemblent et qui vont pas juger ses cuvées.
Il y a toujours, en parlant des jeunes, il me semble aussi un dessin où les jeunes communicants sont pas épargnés aussi. Il y a, je crois, une interview qui est dans les vignes avec un blogueur avec son téléphone qui interviewe et qui lui aussi n'adresse la parole qu'aux vignerons. Donc voilà, pareil, on pourrait se dire la nouvelle génération, ça y est, on est sex blind, on fait plus attention, mais en fait les préjugés sont encore ancrés.
Oui, bien sûr. Et puis c'était c'est un vigneron un petit peu connu qui avait laissé un peu la main, enfin qui avait laissé la main complètement même à sa femme. Et elle n'existait pas, mais lui ne posait des questions qu'à lui, donc c'était hyper perturbant.
J'ai l'impression d'être dans un voyage dans le temps. Là,
bah oui, c'était un peu ça. Pourtant, c'était un jeune.
Donc en fait, toutes les scènes qui sont dans le livre ont vraiment existé.
Je pense à 99%, oui.
Il y a alors, les reconstitutions, mais
oui,
globalement...
Oui, il y a des moments, évidemment, je force aussi un petit peu le trait. Ça reste un roman graphique, mais c'est vraiment du vécu.
Alors, moi, il y a plein de portraits, si vous voulez. On peut finir en parlant des... continuer en parlant des différents portraits et des personnes qui sont dans le livre et ce qu'elles ont apporté à la cause. Est-ce qu'on reste sur notre rouge ou est-ce qu'on ouvre déjà le
Il blanc? Est ouvert, on va passer sur le blanc.
On va passer sur le blanc. De toutes ces personnes que vous avez rencontrées, vigneronnes, voilà, Isabelle Fonkerl, Isabelle Perrault, je l'ai dit, Raphaël Buteau, Fleur Godard, Sandrine Goyvers, Laetitia Gautron. D'abord, est-ce qu'il y a un point commun pour vous à toutes ces personnalités-là? Quelque chose qui, c'est pas toutes des femmes d'ailleurs, il y a deux hommes, je crois.
Oui.
Éric Morin et Adrien
Lely.
Est-ce qu'il y a, une ligne directrice, il y a quelque chose qu'ils ont tous en commun?
Ils portent tous, en tout cas, un message ou en tout cas un combat. Mais pour certains, pour certaines, ça va être beaucoup plus... assumé, mis en avant. Pour d'autres, ça va être plus discret, ça va être un combat du quotidien qui n'est pas forcément communiqué, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. Mais c'est pas des personnes qui se connaissent toutes. Moi, j'avais vraiment à cœur de pouvoir interviewer à la fois des vigneronnes militantes très engagées comme Isabelle Perrault et aussi une jeune caviste entrepreneur qui se lance en banlieue. Je trouvais qu'il n'y en avait pas une qui était moins importante, moins intéressante que l'autre. Je trouvais qu'elle portait toutes les deux des messages intéressants. Et puis quand on a fait le point avec Céline, on voulait pouvoir rencontrer des femmes avec des messages forts, mais surtout des parcours singuliers. Aucune d'entre elles n'a le même parcours.
Oui, c'est ça. Tout le monde est dans des trajectoires différentes. Il y a évidemment... ça me paraît évident, mais il y a Pascaline le Pelletier qui est là aussi. On va être amené à reparler d'elle puisqu'elle prépare le concours de meilleur sommelier du monde, meilleure sommelière du monde, si jamais elle le gagne. Et ça, c'est des rencontres. Alors, je crois que vous racontez, vous êtes en Teams. Elle est à New York. Vous êtes de l'autre côté
C'est ça. L'ordi,
parce que vous avez fait les interviews ensemble.
Alors non, j'ai fait toutes
c'est
les interviews.
C'est toi qui as fait les interviews
toute seule. Ouais. On n'en a pas fait ensemble. À regret, mais. Le travail qu'on avait à faire chacune était très dense, donc faire les interviews ensemble, ça aurait malheureusement fait perdre beaucoup de temps
donc,
à Céline pour
toi dessiner. T'écrivais et t'envoyais tes dessins.
Voilà, moi je suis partie rencontrer toutes ces hommes, ces femmes chez elles, donc que ce soit dans les vignes, dans leurs caves, et du coup je me concentrais évidemment sur l'interview, et ensuite je retranscrivais et puis Céline.
Tu regardais, t'écoutais l'interview ou tu partais des notes qu'avait faites
Je partais des notes qu'avait fait Alès. Ouais. Puis pas mal de recherches aussi sur internet pour les visuels en fait de là où. Enfin, ouais. C'était un peu frustrant pour moi de pas rencontrer les personnes en vrai parce que
pour pas de pas sentir,
bien aimé, tu vois, visualiser où les gens vivent, qu'est-ce qu'ils ont rencontré, enfin, ce qui est représenté. Donc il y avait pas mal de recherches. Sur internet.
On le sent parce qu'effectivement, à chaque fois que commence un portrait, tu prends la peine de faire des dessins qui situent géographiquement. Il y a le lieu, le domaine. Quand on est dans une exploitation, quand c'est la cave, tu nous mets dans une situation.
C'était important de se représenter, déjà parce que c'est des endroits qui sont beaux. Enfin, soit les cavistes, soit les vignerons, visuellement, c'est super à dessiner, quoi. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à faire ce livre parce que c'est des super chouettes endroits à dessiner.
Dessiner des bouteilles,
dessiner des cavistes. Enfin, c'est super beau, ces alignements de bouteilles toutes différentes les unes des autres. Enfin, c'est pour ça que la couverture, moi, elle me plaît parce que toutes ces petites bouteilles à dessiner, c'était vachement apaisant à dessiner. Et puis dessiner les vignes, dessiner les paysages. Enfin, Ouais, c'est super, quoi.
Ouais, t'as voyagé quand même un peu aussi.
Voilà, je voyage avec mon crayon.
Parmi toutes ces femmes, est-ce qu'il y a voilà un ou deux portraits qui sont les plus marquants, qui, toi, Céline, ont donné le plus de difficultés à.
Ah, de difficultés.
Non, je sais pas. Ah. Enfin.
Oh, moi, j'ai
je peux vous poser la question à vous aussi.
Ouais, non, moi j'ai. Enfin, tous les portraits m'ont. C'est passionnant de se lancer dans l'histoire de quelqu'un et de raconter. Raconter le déclic pour travailler dans le milieu du vin, raconter les différentes aventures. Enfin, là, tu vois, t'as ouvert ton livre
Sur Isabelle Fonkerle.
Ouais, moi, c'est celle que j'ai préférée.
Qui est une femme extraordinaire.
Fantastique, quoi. Enfin,
que je connaissais pas.
Entrer comme ça dans les histoires de ces personnes qui font faire du vin, je trouve ça.
Et puis, tu te retrouves un peu dans l'intimité des gens aussi. Isabelle, elle nous a accueillis, enfin, m'a accueilli là. Bras ouverts, il n'y avait pas de notion de temps. Je veux dire, on a passé toute une soirée à parler sans interruption. On a dîné vers entre minuit et 2h, un truc comme ça. Elle nous avait fait un super plat. Le matin, on s'est réveillé, elle avait préparé le petit-déj. Enfin, une généreuse autant dans ce qu'elle porte, ce qu'elle donne. C'était exceptionnel de passer du temps avec elle. Mais comme avec... Tous les portraits, de toute manière, apportent quelque chose. Il n'y en a pas un qui apporte moins ou qui est moins. Ils ont tous une force différente.
Vous avez relevé des portraits qui vous ont particulièrement plu ?
C'est vrai que celui d'Isabelle, il ressort en particulier. Sauf erreur de ma part, elle a croisé Bruno Quenu à un moment donné aussi.
Oui, notre ami Bruno Quenu qui est devenu son mentor, en effet.
Ouais. Qui l'a accompagné. Et puis la veuve Clicquot, parce qu'on après il y a pas mal de dames emblématiques, mais voilà la veuve Clicquot aussi. Bon, c'était c'était administratif. Hein, seul le statut de veuve permettait de pouvoir diriger au 19e siècle une exploitation. C'est pour ça qu'on a toutes ces veuves là. Mais c'est une perversion de l'administration française de l'époque. Enfin bon, on peut comprendre. Comme les pratiques machistes sont encore d'actualité aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a 150 ans, c'était un petit peu complexe aussi. Mais voilà, Isabelle Fonkerle et puis la peuple Clicquot, sachant qu'on connaissait déjà un petit peu l'histoire de Fleur par ailleurs. Mais voilà, c'est les deux qui ressortent pour moi du bouquin, même si elles sont toutes pertinentes.
Pour moi, Isabelle aussi, puisqu'elle était venue me présenter ses vins il y a quelques temps, avant le Covid d'ailleurs, et que j'avais été assez touché et par son histoire et par ses vins. Donc inévitablement, quand je l'ai retrouvé dans le livre, ça a fait écho. Et évidemment aussi Pascaline, puisque bon, quand tu as déjà rencontré les gens, ça crée quelque chose une proximité. Et Pascaline, bon, sans l'avoir vraiment fréquentée, elle animait récemment un événement autour de Mont-Louis, à Mont-Louis. Et ça m'a frappé cette simplicité, cette humilité qu'elle a, alors que c'est une fille qui a...
C'est une championne de tennis, déjà.
Ouais. Oui,
on l'apprend dans le livre.
Bon, ça, c'est pas ce qui m'a frappé lors de ces rencontres.
Non, mais c'est marrant de le dire.
Cette espèce de... Enfin, tout semble simple. Bon, moi, je suis... moi aussi, j'ai un peu parfois le syndrome de l'imposteur, puisque, bon, je suis un reconverti. Et quand je vois les sommeliers qui... beaucoup de sommeliers, malheureusement, je trouve, qui ont une attitude de tout savoir. Donc, pour ça, ce bouquin... je comprends le fait, enfin je comprends d'ailleurs, je comprends pas puisque je suis un homme, mais quand on est nouveau dans le monde du vin, quand on n'a pas obligatoirement une légitimité, ce que vous décrivez, il y a certaines choses où moi je peux me reconnaître. Donc c'est pour ça que je trouve pas que ce soit particulièrement genré ces situations, il y en a certaines inévitablement, mais les sommeliers ont parfois, enfin, je trouve que dans ce monde du vin, il y a ceux qui savent, oui, ceux qui ont toujours évolué dedans, ceux qui sont légitimes, et les autres. Alors, les autres, ça peut être effectivement vous, jeune femme, ou même moins jeune femme, mais c'est des gens aussi qui débarquent, qui ont envie, et qui n'ont pas le regard, enfin, qui se voient regardé de haut par des gens qui ont toujours fait ça, qui savent, et puis qui ont le vocabulaire, etc. Pour moi, le vin, bon, bah, enfin, j'ai toujours dit, c'est une question de sensibilité.
Complètement.
Et la sensibilité, elle est individuelle, et chacun a sa façon de l'exprimer. Et je trouve que, pour revenir à Pascaline, parce que c'est ça qui m'a vraiment frappé, c'est qu'elle a pas du tout cette attitude.
Ce regard surplombant.
Ouais.
Du coup, c'est ça qui nous donne envie de la découvrir toutes et tous. C'est ce personnage accessible, humain. Voilà, c'est.
Et il faut qu'elle gagne.
Ah oui, on est derrière. Cool.
Non, mais ça serait extra.
On va essayer de.
Est-ce qu'elle sera comme Sandrine, meilleure sommelier du monde, alors, quand elle sera sur scène? Comme, lorsque Sandrine Grenier s'était allée, comme
avec son bébé.
Non, mais quand elle était allée sur scène, il y avait que des, elle a été désignée.
Elle était
meilleure...
nommée comme homme du vin.
Voilà, ouais. Homme du vin de l'année, voilà, c'est ça.
Homme de l'année.
Homme de l'année.
C'est ça. Bon, là, elle sera sommelier, bon, c'est bon, là.
Ça existe déjà.
Existe, mais c'est vrai que la. Est-ce qu'on en est à dire que le monde du vin est pas très inclusif, en fait, qu'il y a entre les sommeliers qui surplombent un peu les vignerons, qui parfois, pas tous, certains sont hyper ouverts et expliquent, mais d'autres, comprennent vite, si t'es pas du cru, tu comprends pas ce que je vais te raconter. Donc on sent parfois ce regard, je vais pas dire méprisant, c'est un peu fort, mais surplombant.
La question, c'est est-ce que c'est le monde du vin est plus comme ça que d'autres milieux? Je sais pas.
Je pense pas.
Enfin, ouais. Après, peut-être un peu moins. Enfin,
le monde de la voiture électrique, par exemple, le monde de.
Non, mais je veux dire, on parle de monde. Après, on parle de corporatisme. Oui, je pense que dans tout, il y a des corporatismes, donc des gens qui défendent des statuts et des postures. Je pense que l'avantage de. Monde du vin, en tout cas, sans dire qu'il est mieux ou moins bien, c'est que y a beaucoup de vignerons qui sont en lien avec la terre. On repartait de l'humus, de l'humidité, donc je pense qu'il y a des gens qui sont à ce niveau-là de manière générale un peu plus accessibles, mais c'est ceux qui sont directement en contact avec le sol en général. Oui. Après, plus on monte dans les étages et plus on monte dans les strates, je pense que le corporatisme s'exprime comme dans beaucoup d'autres endroits, et effectivement, après, c'est la posture du sachant qui est assez embêtante. Mais... Est-ce que le monde de vin l'est plus que d'autres corporatismes? Je sais pas. Probablement moins chez les vignerons.
Faisant un autre podcast sur d'autres corporations. Non, mais t'as raison.
Je crois que c'est ce qu'on a voulu montrer dans le livre, en fait. C'est qu'il y a un autre monde du vin où, justement, les gens sont super ouverts. Enfin, moi, en rencontrant Alès, je me suis dit, Moi, j'avais cette idée du monde du vin, justement, qui est très fermé avec les sachants d'un côté et les gens qui, comme moi, connaissent rien au vin. Moi, j'étais comme la petite mamie qui va chez le caviste en disant, non, mais je vais attendre que mon mari arrive parce que lui sait, il aime le vin et que moi, je me sentais pas légitime à le faire. Et en échangeant avec Alès.
Puis même en venant avec moi, je suis entourée d'autant d'hommes que de femmes. Il n'y a pas de, autour de moi, je
rencontre des gens qui parlent du vin, qui laissent si je suis aujourd'hui parmi vous, pour le coup, je me sens pas avec le syndrome de l'imposteur. Je me sens à ma place et c'est chouette, quoi. Pourtant, j'y connais rien au vin. J'ai dessiné des bouteilles.
Quand même.
Valérie, ça t'évoque des souvenirs, toi aussi tu t'es reconverti pour arriver dans le vin. Tu as vécu aussi ce décalage entre ceux qui savent
En fait, c'est plus il y a au tout début, enfin quand j'avais 22 ans, donc il y a quelques années maintenant. Oui, effectivement, j'ai vécu ce que je disais tout à l'heure, des moments où effectivement avec ces vieux briscards ou quand Laurent parle, il y a quand même l'univers aussi de. C'est une question d'état d'esprit aussi. Je vois que les choses ont changé, mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait ce côté si on commençait à parler dans le vin, on n'intéressait pas. Alors évidemment, quand on démarre, on ne sait pas trop si on est légitime ou pas. On se sent pas légitime. D'ailleurs, on démarre, on n'a qu'une envie, c'est apprendre. Et donc c'est compliqué de faire sa place. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. C'est tellement, je vois vraiment les choses un peu, vraiment autrement aujourd'hui, dans le sens où, d'abord, j'ai pas le même âge, mais je m'encombre plus, de tout
ça. Oui, ça aussi.
Parce que c'est ça aussi. J'essaye de passer outre ça et tous ces hommes, parce que il y en a toujours, mais peu, qui sont là, les sachants, quand ils arrivent à des salons pro, on les repère tout de suite, on n'entend que. Moi, je les trouve, aujourd'hui, ils me font sourire.
Ils font rire. Oui, c'est ça.
À côté pathétique, en fait. Fin de règne.
À côté de ça, je vais pas forcément la citer, mais ma rockstar du vin, qui est un très grand sommelier, qui était meilleur sommelier du monde il y a quelques années. S'il écoute un jour ce podcast, et je pense qu'il saura, s'il sait que c'est moi qui parle, que c'est lui dont on parle, pour moi, c'est une vraie star, parce qu'il a, il a beaucoup d'humilité.
On n'a pas des tonnes, les meilleurs sommeliers du monde.
Philippe Forbrach,
c'est de lui que tu parles.
Absolument. C'est Philippe Forbrach. Et c'est vrai que moi je l'ai eu la chance de le rencontrer il y a 30 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au vin à l'Association des sommeliers de Paris. Et c'était c'était ma star, c'est je l'appelle ma rockstar du vin. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est à chaque fois, je trouve qu'il est, voilà, il est accessible, etc. Ce qui est pas le cas d'autres qui, quand ils arrivent à un salon, c'est tout, hein, c'est, on a l'impression que c'est Johnny qui arrive. Enfin, c'est un truc de fou pour moi. Voilà. Donc c'est, il y a tout ça. C'est aussi une question d'état d'esprit. C'est vrai, ouais, que les choses ont changé, mais il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Tous ces.
Et toi qui es en, du coup qui travaille en cave toute la semaine, est-ce que tu vois encore arriver en cave, je veux dire, une caviste à Paris, pas en cave chez le vigneron, mais est-ce que tu vois encore arriver ce profil de la femme qui dit bah, c'est mon mari qui sait, mon mari m'a dit prends ça, ah, je sais pas, c'est mon mari, parce que ça arrive plusieurs fois ça, hein, dans le alors, dans le bouquin.
Oui, ça m'arrive. Mais c'est très rare. Et alors, mais quand où, ça votre m'arrive, mari, j'adore moment, ça. Ça. J'adore ça, ah, quand ça, voilà, m'arrive. Parce que, bon, c'est vrai qu'il faut quand même que je sois très en forme ce jour-là, parce que du coup, j'ai une meilleure répartie. Parce, oui, que ça, voilà. Parce que ça percute plus vite. Mais du coup, je dis à cette dame, mais vraiment. Alors, on y va, madame. On n'attend pas votre mari. Vous allez me dire, vous aimez quoi? Voilà. Puis on discute toutes les deux. Mmh. Et voilà. Et on en vient à quelque chose de plutôt sympa. Mais moi, j'ai vu, hein, j'ai une anecdote comme ça, d'un jeune couple qui avait 25 ou 30 ans, qui un mardi ou mercredi, en milieu de semaine, me dit, je leur demande ce qu'ils veulent comme profil de vin. Et, le jeune homme dit, bah, plutôt léger. Et la jeune femme le regarde en lui disant, mais pourquoi léger? Bah, oui, oui. Je trouve ça énorme. Et ça, c'est, voilà, c'est extra, parce que il y a ce côté comme ça, bah, non, voilà. Ou certains qui vont pas prendre tel type de vin parce que, bah, non, ma femme, non, mais j'attendais, c'est quoi ces idées? En plus, bon, c'est vrai que, bah, pour le coup, je suis pas du tout branchée comme ça.
Ça revient pas mal de fois dans le bouquin. Où,
avec Adrien. Bah,
On aime les vins robustes, oui, avec de la complexité. Nous, les femmes aussi, quoi.
Oui, clairement. Bien sûr. Mais c'est évident que, depuis que j'ai démarré, moi, il y a 15 ans et aujourd'hui, ça a énormément évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ça ne veut pas dire que tout a évolué, sinon on n'aurait pas besoin de se battre encore. Mais je le vois quand je rentre dans des restaurants, quand je vais dans des cavistes, ça bouge. Il y a de plus en plus de femmes et puis qui portent aussi des messages et puis qui sont là. Et qui savent.
Moi, j'ai un petit commentaire. Moi, j'ai beaucoup de comptes clients féminins.
Ah.
Et ça, c'est extra. Et moi, quand je me retrouve quelquefois dans la cave avec 5-6 femmes, je fais toujours un arrêt sur image et je leur dis, mais mesdames, regardez un peu ça. Et pourtant, jamais on aurait vu un truc pareil.
C'est sûr.
Mais c'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a par moment des, voilà. Il y a beaucoup de comptes, oui, de femmes. Voilà. Où le mari dit, oui, je viens, mais c'est ma femme qui a un compte. C'est énorme.
Ah oui, c'est à Montreuil aussi, au 22, il y a ça. Les comptes. Mettez sur le compte de ma femme.
Dans le même, dans le même esprit, je pense que vous l'avez déjà mentionné lors d'un épisode précédent, aussi bien quand je fais déguster à l'aveugle les vins à mes clients, parfois la femme dit « Ah non, mais c'est mon mari qui goûte, c'est lui qui sait. »
Ça existe en
alors que, que effectivement, elle peut goûter les vins et son mari n'a pas son palais. Hein. Quoi qu'elle en dise, son mari n'a pas son palais. C'est vrai. Mais j'ai tout autant d'hommes qui disent « Ah non, mais c'est ma femme qui aime le vin, moi j'aime la bière. » Alors, ok, c'est plutôt des anglo-saxons.
C'est vrai mais, non, mais c'est intéressant.
Oui, très très fréquemment. Souvent, j'ai souvent des couples, essentiellement britanniques hein, d'ailleurs, où l'homme vient traîné par sa femme dans un bar à vin parce que lui, il aime la bière et c'est sa femme qui aime le vin. Et donc, il la suit aveuglément. Mais bon, voilà, c'est pour l'anecdote, hein, parce que effectivement, c'est pas français. C'est pas trop le comportement français. Mais, client britannique, et Dieu sait que j'en ai beaucoup, hein, je suis près de la gare du Nord, il y a ce phénomène-là. Hein, les hommes buveurs de bière et les femmes buveuses de vin. Ouais.
Alors que la bière, c'est bon aussi?
Oh, j'adore la bière.
Alors, t'aimes bien la bière, mais si on te suit sur Instagram, on découvre aussi que tu aimes les cigares.
Ah oui, j'adore.
Voilà.
Oui. Je débute dans la dégustation de cigares grâce à mon amie Carmen, notamment, qui est dans le livre, qui m'a présenté Charlotte, une fille super, qui organise des soirées cigares avec des femmes qui ont des divers parcours professionnels. C'est super chouette et on se retrouve donc dans des endroits hyper rigolos, atypiques, et on déguste des cigares. Et du coup, je suis partie cet été en vacances avec mon petit sac de cigares pour des dégustations en fin de journée au bord de la mer. Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, tu te rends compte que tu peux faire des super accords aussi avec le vin, avec des champagnes, avec des vins sucrés, avec des alcools, mais tu peux faire tout un tas de choses. Et puis, le cigare, c'est un peu comme le vin. En fait, je me suis rendu compte que le terroir était hyper important, l'hygrométrie. Enfin, c'est plein de choses qui sont pareilles pour le vin. Et que tu as des styles de cigares, t'en as qui sont très fumés, très chocolatés, d'autres qui sont plus sur la vanille, d'autres sur le côté plus sec, d'autres plus gourmands. Enfin, t'as un vocabulaire, en fait, dans le cigare que tu peux transposer sur le vin. Puis si tu bois les deux en même temps, tu fais les deux en même temps, c'est super.
Pourquoi pas? Moi, je serais partant pour une émission dégustation vin et cigares. Mais t'as vu que c'est peut-être un monde qui est encore plus masculinisé
c'est possible.
Que le monde du vin.
Mais j'ai mis un tout petit pied pour le moment. Donc,
ouais, c'est rigolo.
En tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées, notamment pas mal d'hommes depuis que je suis dans ce petit groupe, ont eu un vrai plaisir à échanger avec notre joli groupe de filles.
Il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas aussi dans ce
Exactement.
Dans ce domaine-là et que ça reste un plaisir soi-disant réservé aux hommes. Bon, voilà, pourquoi pas essayer les cigares. Alors, il faudra qu'on change dessus, qu'on se mette peut-être en plein air parce que là sinon on va suffoquer rapidement.
Vous allez plus vous voir en 10 minutes.
En attendant, on n'a pas dégusté de cigares, mais on a discuté
du vin.
Dégusté du blanc.
Voilà.
C'est juste pour en parler brièvement.
Alors, dis-nous qu'est-ce que tu as apporté comme
Alors c'est un vin normand, c'est assez rare, donc les arpents du soleil qui est le seul, domaine viticole en Normandie, c'est 5 hectares à Saint-Pierre-sur-Dive, c'est à 25 km de Caen, et c'est un Auxerrois de 2016. Et donc la particularité, c'est qu'il y avait des vignes, c'est un microclimat qui a un terroir assez proche de Chevalier-Montrachet, hein, parce qu'on est sur... On est sur des sols,
géographiquement.
Non, au niveau du sol,
géologiquement.
Voilà, si on est violent, on dirait que c'est une Renzine anthropique sur Botanien supérieur.
Ah oui.
Et plus simplement, voilà. c'est juste.
Sandra a hoché de la tête.
Non, mais c'est juste, c'est argilo-calcaire sur un socle calcaire et ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve à la Bourgogne en Côte de Beaune, notamment de côté de Montrachet. Et c'est un microclimat. Assez pluvieux, assez chaud, qui permet d'avoir des vins et un certain fort ensoleillement, d'où le nom de Arpents du Soleil, dans ce coin-là. Et donc c'est un Auxerrois. Auxerrois, c'est un cépage assez aussi rare, il n'y en a que 4000, 5000 hectares dans le monde, 1600 en France, qui vient d'Auxerre, à pas confondre avec le Malbec ou le Caux, hein. C'est un cépage blanc qui vient plutôt de Lorraine, qu'on retrouve notamment en Alsace, dans les Crémants, et plutôt dans le nord-est de la France et en Allemagne et parfois un peu en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est un peu spécifique, mais je trouve le vin très très équilibré, assez riche pour un vin du Nord, et assez gourmand pour un Auxerrois.
Oui. C'est marrant parce qu'au départ j'avais un petit côté anisé au tout début, dès le premier nez, et en fait je l'ai beaucoup moins maintenant. Je sais pas pour vous, et c'est peut-être parce que j'ai eu peut-être fait un petit refill, je sais pas, ça me fait un truc un peu différent. Mais du coup oui, je trouve que c'est très pâtissier.
Ah oui, hein, oui.
Complètement. C'est à fond comme ça.
Côté très pâtissier, presque amande.
Un côté frais exotique,
très même. Riche, hein, très étonnamment riche pour moi.
Oui, complètement.
Limite, même, j'ai presque cette sensation d'alcool qui est un petit peu.
Oui, t'es un peu chaud.
Il titrera combien?
Il fait que 13,5, mais je vérifiais justement parce que j'avais cette sensation de chaleur.
Peut-être 14. Hein.
Ce qui est assez particulier, donc pour un vin de Normandie,
on s'attend pas, ouais, c'est ça. Ouais. Déjà, l'appeler les arpents du soleil quand on est en Normandie, c'est affirmer quelque chose. Ah, c'est vachement intéressant. On a fait une émission sur les nouveaux territoires, nouveaux terroirs du vin. On a parlé pas mal de Normandie, justement. Donc voilà un exemple. Même si là, ça fait déjà quelques années qu'on fait du vin à cet endroit-là.
Oui, c'est Gérard Salmon qui a repris ça en 95. Mais il y avait des vignes, en fait, la carte de Grisy. Donc Grisy, c'était le géographe de Louis XV, et qui prouve qu'il y avait de la vigne à cet endroit en 1761. Voilà, pour l'anecdote. Mais donc c'est un terroir qui revit sous le malheureusement les feux de la rampe, là, les feux du réchauffement climatique, quoi.
Je retombe sur une lampée sexiste, puis c'est comme ça que sont intitulés les intercalaires un petit peu, y compris avec l'interprofession. On a la vigneronne qui vient. Nous avons le plaisir de vous convier à notre rassemblement annuel des vignerons. Elle est toute contente d'avoir rencontré d'autres vignerons.
Oui.
Puis en fait, elle vient une teuf et enfin une teuf. Voilà,
un petit
banquet et puis elle dit bonjour. Voilà. Et puis en fait, personne lui adresse la parole.
Oui. Alors ça, c'est une histoire qu'une vigneronne m'a racontée qui date d'il y a à peu près 20 ans.
Ça n'arriverait plus.
Je pense pas dans ces termes-là, mais voilà, il y a 20 ans, c'est ce qu'elle a vécu.
En tout cas, ce qu'on a pu nous collecter en général, c'est que il y avait forcément un effet du collectif et que dans une appellation, il y avait un peu les anciens et les modernes, mais que un peu partout, il y avait une agrégation comme ça, justement souvent des nouveaux venus. Donc ça peut être des fans, mais ça peut être des jeunes, ça peut être des gens qui viennent de la ville, ça peut être, et que la solidarité à l'intérieur d'une appellation, d'une région, était le moteur numéro un, finalement, de l'intégration, si on peut utiliser ce terme, mais surtout aussi de l'entraînement, du fait de vouloir faire ce métier. Parce que le point commun de tout ça, c'est quand même qu'il y a une passion incroyable, en fait. Toi, le vin, tu racontes que le vin t'est tombé dessus un jour, et puis tu t'es dit, je suis bien dans ce milieu-là, c'est là que j'ai envie d'être. Et on a l'impression, en lisant ce témoignage-là, que c'est le point commun avec toutes les nanas qui sont là. Pascaline Lepelletier, c'est pareil. Un jour, elle a la révélation.
En goûtant, je crois que c'était un Sauternes ou quelque chose comme ça.
C'est pas un Nikem, non ?
Un Nikem, oui. Mais je pense que toutes, plus ou moins...
C'est une profession de coup de foudre, en fait.
Oui,
non,
voilà. En fait, c'est beaucoup d'histoires de coup de foudre. Hein. Moi, j'ai eu un réel coup de foudre avec la Bourgogne. Je connaissais rien au vin, je pensais que j'y connaissais quelque chose. Parce que comme je ne connaissais rien, je demandais souvent les bouteilles un petit peu plus chères pour être sûre. Et puis quand j'ai commencé à travailler chez Bernard Loiseau, que j'ai goûté mes premiers grands pinots noirs, ça a été incroyable, j'ai pris une claque. Et donc après, tout mon argent y passait. Tout l'argent que je gagnais, c'était les restaurants, les cavistes, et puis goûter. J'étais sur la Bourgogne, il fallait que je goûte tous les pinots noirs possibles, imaginables. Donc je travaillais beaucoup pour pouvoir m'en acheter, mais ça a été c'est un vrai coup de foudre. C'est une passion, quoi. C'est vraiment plus que juste.
T'as eu la chance d'avoir cette découverte il y a 20 ans, c'est ça?
Oui, il y a à peu près 15 ans.
Parce qu'aujourd'hui,
C'était moins
encore,
cher.
Encore plus travailler.
Faudrait beaucoup plus travailler
pour se les payer.
Oui, à mon grand malheur, c'est vrai que la Bourgogne, ça devient quand même compliqué.
Qu'est-ce que c'est le vin pour toutes ces femmes, il y a ce coup de foudre, elle est belle. Il y a ce coup de foudre qui
spontané.
Alors on va la couper, tu vois. Il y a le coup de foudre qui peut arriver à n'importe lequel, mais il y a non, on la coupera pas si tu veux. Mais il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est le vin et le réceptacle d'une ambition. Elle se projette facilement dans le vin. C'est une façon de parler, de s'adresser aux autres. C'est une façon d'être en contact avec les autres. Il y a une sensibilité, en fait. La matière vin, je pense que tu écrirais pas le même livre. On a beau dire MeToo arrive dans tous les mondes, mais tu écrirais pas le même livre dans d'autres univers. Le vin, il a quelque chose.
Pour moi, le vin, en tout cas, si je parle que de ce que je ressens, ça touche à l'émotionnel. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de portraits du livre. C'est ça touche à des souvenirs. Alors quand je dis des souvenirs, c'est sûr qu'à 4 ans on n'a pas souvenir de vin, mais ça va plus loin que ça. C'est que le vin, moi c'était chez ma mère. J'ai grandi avec ma maman. C'était des amis, du vin sur la table, des longues discussions, et j'ai ces souvenirs de chaleur. L'ambiance était chaleureuse, il faisait chaud dans le salon de ma maman, et du coup c'est vrai que il y avait toujours du vin sur la table, et je me disais c'est un super vecteur de partage, de rencontre. Moi le vin, je m'en sers vachement pour partager. C'est parce que on se retrouve avec des gens avec qui on n'aurait peut-être jamais échangé, jamais dîné, jamais, et le vin permet ça. Et puis il y a le côté émotionnel aussi. Par exemple, Sandrine parlait de son papa qui lui racontait des recettes de cuisine. Donc elle a mis un pied dans la gastronomie appelle le vin. Donc il y a toujours quelque chose de l'ordre aussi, je pense en tout cas, de l'affectif.
Du plaisir et de la sensation.
Complètement, c'est un vrai plaisir, le vin. Quand on déguste et qu'on s'écoute un petit peu, même si on n'a pas les mots sont pas tellement importants tant qu'on a la sensation, en fait, je pense.
Céline, est-ce que Alessandra t'a fait tomber dans le vin en amour comme ça aussi pour le vin? Est-ce que t'as eu le coup de foudre pour le vin toi aussi?
Carrément.
C'est vrai? Non mais
je me suis fait engueuler par son mari.
Non.
Il a fait trop boire.
Il gueule.
Mais de poser sur le vin un regard différent de celui qu'on peut poser avant, en fait.
Ouais. Moi après, avant je me sentais ce fameux syndrome de l'imposteur. Moi typiquement quand j'ai commencé à travailler avec Alessandra. Je me disais, ouais, mais je suis peut-être pas la bonne personne. Tu parlais de Michel Tolmer tout à l'heure. Pour moi, c'est plus ce genre d'illustrateur qui aurait pu travailler avec Alès, puisque lui...
Qui est un fou de vin. Il est fou de vin à titre perso.
Il connaît, il a déjà des, enfin, il a plein de relations avec les vignerons. Enfin, voilà, c'était, moi, j'étais un peu la nana qui.
Mais il peut pas écrire toutes les BD du monde non plus, Michel Tolmer. Voilà, c'est pas possible.
Il a pas fait les ignorants. Non, c'est pas lui.
Je pense que ça joue en faveur.
Il fallait une Céline.
Mais ça y est, du coup, t'es tombé dedans. Tu as été piqué par le virus.
Ouais, carrément. Et puis elle m'a fait découvrir. Mais c'est clair. Moi, j'étais pas forcément, enfin, je suis super écolo. Et il y a un truc sur lequel je m'étais pas interrogée. C'est le côté boire durable. Enfin, et puis tout ce travail des vignerons.
Bio, biodynamie, nature.
Et alors. De manière complètement, parce que je connaissais pas, enfin, et Alès m'a fait connaître ce genre de vin et ce genre de vigneron et vigneronne, et ça m'a vachement, enfin, ça m'a beaucoup interpellée. Et s'il y a un truc que j'aimerais avec notre livre, c'est que les gens aussi réfléchissent à la manière dont ils boivent, enfin, quand c'est qu'on arrête, enfin, je vais dire quelque chose d'horrible, qu'on arrête de boire du vin conventionnel peu cher,
conventionnel assumé en tout cas,
qui maltraite la terre et enfin je veux dire il y a des vignerons qui prennent soin du sol, qui ont des pratiques durables, et c'est vers cette consommation là qu'on devrait aller, du moins quand on a les
des vignerons pionniers dans le sud, c'est un clone de Flève qui est mentionné aussi en portrait dans le c'est difficile à retrouver, mais
très difficile.
Elle est engagée dans le.
Elle est morte assez
dans la biodynamie,
trop tôt,
notamment. Ouais.
Mais voilà, elle parlait beaucoup du voilà, le vigneron est le premier à jardiner pour la nature et quelle idée de mettre des pesticides sur son lopin qu'on travaille au quotidien, quoi.
On peut dire, on va peut-être conclure là-dessus, mais c'est, tout ça c'est le même mouvement. C'est le même. Les mouvements vont dans la même direction.
Les femmes et le bio,
oui, voilà. Ça. Enfin, toi, ta passion du vin, c'est tout ce que tu dis, la convivialité, évidemment l'éveil des sens, l'émotion que ça peut procurer, mais le combat pour la visibilité des femmes va aussi avec le combat pour des vins plus propres, pour une pratique plus respectueuse.
Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai pas tout de suite bu du vin bio, et puis j'ai pas même, autant que j'ai commencé à goûter du vin bio, ma pensée féministe aussi a éclos, il y a plusieurs années, et une fois que j'ai compris, et puis que j'ai goûté la différence, ça a été pareil, un peu comme un deuxième coup de foudre, où je me suis dit, mais comment je pouvais consommer à ce moment-là avant, et puis j'étais ignorante aussi sur pas mal de choses, c'est pas évident, on n'a pas toutes les informations, mais aujourd'hui pour moi, oui, déguster bio, biodynamie engagée, pas juste pour le label, mais pour la philosophie que le vigneron ou la vigneronne va mettre dans son travail, c'est essentiel.
Tout ça, enfin, sans faire d'éco-féminisme absolu et sans dire que c'est la bonne. Tout ça, c'est un rapport à la prédation, en fait.
Oui, mais c'est exactement
ça. Prédation sur les autres, prédation sur la nature, prédation. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans l'horizontalité, dans le partage, ou est-ce qu'on est dans la verticalité, la prédation? Voilà. Donc, je pense que c'est le paradigme qui se pose.
Il est bien en conclusion.
Ouais,
c'est
ouais,
parfait.
Vraiment très bien. Je l'aurais pas mieux dit.
Clap de fin, Céline. Oui, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Quels sont les projets après? Parce que là, vous faites la promo, t'es sur France Inter, tout ça. Mais est-ce que
sur la Terre à boire,
à la Terre à boire, tu vas passer
sur la Terre à boire.
Surtout, bien sûr. Et on est ravis que vous soyez là. Vous allez faire toutes les radios, les télés du monde. Le livre va très bien se vendre. Et vous êtes sur autre chose? Sur quoi? Toi, tu es sur d'autres projets de graphisme, ou
ouais,
tu es parti dans le vin
encore.
Tu peux pas en parler, d'accord.
Non.
Tu écris un livre avec Michel Tolmer.
Non, c'est plus le vin.
Ça serait génial.
C'est plus le vin, c'est autre
mais
chose.
Mais après, si Nuno Femina 1 marche bien, pourquoi pas un tome 2?
Mais non, parce que vous avez résolu tous les problèmes.
Non.
Si seulement.
En fait, non, mais l'idée, ce serait de faire plein d'autres portraits, quoi.
Oui, c'est ça.
Parce que là,
c'était
fatalement, on s'est dit,
ouais.
Pense à des portraits qu'on aurait pu.
Voilà, on a plein de portraits
avoir.
En tête. Hein, on
puis
a
des bouteilles à dessiner.
Ouais. Plein de bouteilles, plein de portraits. Ah oui, on adorerait un jour, si c'est possible, faire un tome 2.
Ah oui, bah, écoute,
on va déjà voir comment se porte le tome 1.
Si Hachette nous écoute. Et toi, Alessandra, qu'est-ce que tu fais du coup maintenant que tu as fini ce livre?
Je travaille. Je continue à travailler. Moi, je donne des formations dans le vin, à la dégustation. Je vends du vin. Et j'écris des petits articles aussi dans le vin. Donc voilà, comme dit Céline, je slash. Donc je fais plusieurs activités, mais dans le même domaine.
D'accord. Donc, si on veut assister à une dégustation, on te contacte.
Exactement.
On
trouve, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et j'adore former notamment les débutants, parce qu'ils ont un langage qui est super chouette et qu'ils sont hyper...
Les enfants, dès 8 ans.
Bah oui. Ils sont très curieux sur... Enfin, surtout, ils ont une ouverture qui est vraiment intéressante.
C'est un peu ça, finalement. S'ouvrir au vin, c'est se départir complètement de ses a priori.
Oui, c'est ça. Et surtout, après, quand on commence à en avoir, réussir à nouveau à les remettre à distance, parce qu'en tant que professionnel, on en a certains qui arrivent sur un style de vin. Et puis après, c'est se remettre en question, regoûter. Voilà, toujours être alerte, ouvert et faire attention à pas s'enfermer dans quelque chose.
Bah merci. En tout cas, c'est un livre qui s'enferme pas, qui a plutôt tendance à ouvrir le monde du vin, à tous les amateurs, avec quelques partis pris évidemment bien ancrés sur le choix des vins, la qualité, le type de vinification, et puis évidemment sur la place des femmes, qui est leur place, qu'elles occupent déjà, et qu'il s'agirait juste de reconnaître et d'accompagner, enfin sans en faire des tonnes. Les choses suivent leur cours et elles sont déjà présentes, donc c'est toujours difficile quand on voit des retours en arrière, comme on a pu constater parfois ces derniers temps, mais... Voilà, moi j'ai vraiment eu le sentiment de lire une sorte de document de l'époque. Nous, ça fait 5 ans qu'on a commencé ce podcast. On a vu ces différents débats arriver. On a rencontré les gens. Et puis là, j'ai l'impression de tout lire et puis d'en apprendre aussi plein, évidemment, sur plein de gens qu'on connaît et qu'on connaît pas. Donc, bravo pour ce travail, mesdames.
Merci beaucoup.
Alessandra Fotorino et Céline Pernaud-Burlet. Invino Femina, c'est paru chez Hachette Vin. Quand cet épisode paraîtra, il sera encore sur les tables des libraires, c'est sûr.
Chic.
Surtout que voilà, vous allez essayer de tenir jusqu'à Noël, là, pour que ça s'offre un petit peu sous le sapin.
On espère que ça fera un beau cadeau de Noël.
Vous êtes distribué chez les cavistes ou pas?
Oui.
Ah oui,
j'ai pas mal de cavistes. J'ai plein de copines et copains qui ont acheté le livre et plein d'autres cavistes de France qui l'ont commandé, donc on est hyper touchés par ça.
Bah merci en tout cas pour le livre et puis voilà, merci d'être venu ce soir déguster avec Valérie Ouvertus, avec Patrice Defay, avec Laurent Delceau. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Terre à Boire dans une paire de semaines. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.
Salut. Bye bye.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.